Sablé. Jusqu'à la fin du 19e siècle, l'endroit en face duquel nous nous trouvons aujourd'hui n'était qu'un amas de rochers à peine émergés de l'eau. Christian Chulet, bonjour.
Bonjour.
Notre visite guidée sur la rivière Avaudoise fait escale au port du Basset à Clarens. Et nous sommes justement en face de ce qui était appelé autrefois la roche aux mouettes.
Et cette roche aux mouettes devient une île de manière artificielle suite à l'apport de matériaux qui sont extraits lors de la construction de la ligne de chemin de fer sur l'autre rive du Léman entre Évian et le Bouvray, une ligne qui est ouverte à la circulation en 1886. Cette île, donc constituée avec ces matériaux, prend alors le nom d'île de Salagnon, un nom que portaient jusqu'alors deux petits îlots, les rochers de Salagnon, qui sont situés au large de Burier, près de la Maladère, et un nom qui ferait référence aux masses de sel appelées Salignon, des masses de sel qui transitaient à l'époque de la Savoie par le péage de la Tour de Paix.
Alors en quelques brassées, on y est.
Et cette île, créée de toutes pièces, est décrite comme effectivement le rendez-vous des baigneurs, des rameurs et même des photographes. Mais tout ça va changer. Un jour cependant, l'accès en fut interdit. L'îlot désert fut envahi par la civilisation, on commença à bâtir. Quel mortel audacieux se proposait donc de mettre ainsi l'eau entre lui et le monde habité.
Effectivement, la question est là, Christian Chulet.
Et la réponse, Pierre, l'île de Salagnon près de Clarens vient d'être acquise par M. Chartrand, le peintre bien connu, l'auteur du meilleur portrait du pape Léon XIII. Et on dit que M. Chartrand a l'intention d'y élever une villa sur cette petite île et d'y aménager un port.
On se trouve en quelle année?
C'était en 1900 et Théobald Chartrand était alors âgé de 60 ans. Il est né en 1840 à Besançon et c'était un peintre portraitiste franc-comtois, donc un compatriote de Gustave Courbet dont nous avons parlé la semaine passée.
Donc tout commence en 1900, on y bâtit la maison actuelle.
La construction est effectivement mise à l'enquête à l'automne et quelques mois plus tard, l'île change d'apparence au fur et à mesure de l'avancement des travaux que le public suit avec attention depuis la rive. Et la villa, avec ses petits airs de palais italien, est habitée dès l'été 1901 par Théobald Chartrand et son épouse. Et cette villa est reliée par un câble qui est décrit comme le premier câble sous-marin du Léman, un câble qui amène l'électricité pour l'éclairage de pas moins de 300 lampes. Et puis un deuxième câble est installé cette fois-ci pour la relier au réseau téléphonique.
Une villa avec tout confort.
Tout confort, c'est le moins qu'on puisse dire. Et chaque été, cette villa qui est décrite comme la demeure la plus originale et la plus enchanteresse de la région, comme un vrai bijou, accueille des hôtes prestigieux. Les contemporains évoquent l'escalier qui meurt dans le lac bleu, les grands arbres sivères, la pergola blanche où grimpent les vignes vierges, ainsi que les statues qui l'ornent. C'est un foyer d'artistes où chacun vient rendre hommage à la sympathique figure du grand maître. Et par ailleurs, ce grand maître, M. Chartrand, est très amateur de feu de Bengale, si bien que le dimanche soir, il sait les disposer de manière à illuminer féeriquement son petit royaume. Rien ne l'amuse plus que de tirer lui-même avec une joie d'enfant, chandelle romaine, pièces montées, fusées et bombes.
C'est un bon vivant.
Un bon vivant, effectivement. Et un de ses hôtes de la villa devait être également un bon vivant, celui qui a été nommé Auguste le Savoyard.
Qui est-ce?
Il s'agit d'un crapaud, Pierre. Un crapaud auquel le propriétaire aurait donné ce surnom en référence à la provenance de la terre qu'il a utilisée pour l'aménagement de son île, qui venait de Savoie, et puis une île qui est qualifiée d'Éden italien en plein pays de Guillaume Tell.
Christian Chulet, est-ce que le peintre Chartrand a joui longtemps de cette propriété?
Malheureusement, assez peu d'années, car cette brillante et coassante vie insulaire prend fin avec la mort de l'artiste en 1907 déjà. Et l'annonce de son décès est accompagnée des lignes suivantes. L'île restera sans doute déserte cette année. Le passeur n'y conduira plus le maître. Et sous les terrasses à balustrade, sur la pergola, les statues s'étonneront dans la splendeur des crépuscules, de la solitude de cette Venise joyeuse où tant de personnalités mondaines, artistes et journalistes, goûtaient l'an dernier encore à la grâce hospitalière des amphitryons, c'est-à-dire de ceux chez qui l'on dîne.
Que va devenir cet endroit?
Alors cette île de 1486 mètres carrés est proposée à la vente l'année suivante, mais finalement elle est mise en location et elle reste propriété de la veuve du peintre jusqu'en 1917. Ce qu'on peut encore signaler, c'est que la propriété perd une partie de son caractère insulaire avec la construction en 1910 du port du Basset, un port dont les jetées forment deux arcs de cercle aboutissant de part et d'autre de l'île. Mais une île qui conserve son charme romantique et dont l'on ne prend congé qu'à regret.
Merci Christian Chulet. Nous nous trouvions dans l'un des villages de la commune de Montreux. Nous allons y rester dans la commune pour rejoindre un promontoire qui nous offrira une magnifique vue sur le Léman, entre autres. Belle semaine!
À vous de même, merci!